Bonjour ou bonsoir, vous êtes avec les neveux de René, une émission consacrée à la découverte de la philosophie à travers les grands textes de la philosophie. Vous êtes avec Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même Nazim Fattès. À la technique, c'est Antoine Honorat.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, dans cette émission, nous allons découvrir Leibniz. Leibniz qui est, qu'on peut présenter de manière sommaire comme le dernier des quatre grands cartésiens. Donc, l'émission s'appelle Les Neveux de René. Donc, si on peut tracer une ligne qui part de René Descartes au XVIIe siècle, on a Descartes, on a Pascal, qui va être le grand interlocuteur et ennemi de Descartes. On a Spinoza, qui va jouer aussi un grand rôle dans la philosophie. Et enfin, Leibniz, qui va essayer de ramasser tout ce mouvement-là et porter la pensée dite rationaliste à son sommet. Bon, mais tout ça, ce ne sont que des étiquettes, et les neveux de René ont comme habitude de se plonger directement dans le texte. Alors, nous vous proposons de lire, de méditer, d'écouter un texte qu'on peut se procurer, si l'on veut, gratuitement sur l'Internet. On peut aussi trouver différentes éditions de ce texte, la meilleure étant au PUF. Alors, le titre du texte, c'est « Principes de la nature et de la grâce fondés en raison ». Ça se présente comme des articles qui sont assez courts. C'est un texte qui est difficile d'abord, puisque c'est la pensée d'un grand philosophe, mais qui est extrêmement condensée. Et donc, voilà, on propose aux auditeurs et aux auditrices de se confronter à cette difficulté, tout en sachant qu'une émission comme celle-ci ne va faire qu'aborder les choses. Évidemment, il faudra plus de temps pour s'y plonger. Voilà. Alors, on va donner la parole à Anne pour lire le premier article « Des principes de la nature et de la grâce fondés en raison », texte daté de 1714.
La substance est un être capable d'action. Elle est simple ou composée. La substance simple est celle qui n'a point de partie. La composée est l'assemblage des substances simples ou des monades. Monade, monas plutôt, est un mot grec qui signifie l'unité ou ce qui est un. Les composés ou les corps sont des multitudes et les substances simples, les vies, les âmes, les esprits, sont des unités. Et il faut bien qu'il y ait des substances simples partout, parce que sans les simples, il n'y aurait point de composé, et par conséquent, toute la nature est pleine de vie.
Merci. Alors, on pourrait évidemment passer toute une émission à commenter ce premier paragraphe. Alors, tout d'abord, mes chers amis, je vous pose une question. Principe de la nature et de la grâce fondés en raison. Que vous inspire ce titre ?
Alors, moi, j'ai déjà un petit souci, parce que dans l'appendice que j'ai sous les yeux, j'ai « Principe de la nature et de la grâce fondée » et « ES » en raison. Et dans tous les autres titres que j'ai vu « ES ». Et c'est quand même quelque chose qui a de l'importance.
Ah oui.
Donc, qui est-ce qui est fondé en
raison ? Qu'est-ce qui est fondé en raison ?
Voilà. Est-ce que c'est la nature et la grâce ou est-ce que ce sont les principes ?
Ah, voilà, voilà. Alors ça, c'est une bonne question philosophique, ça. Merci, Anne. Bon, Sylvain, tu as une réponse ?
Non, pas comme ça.
moi, je dirais, à chaud comme ça, belle question. On peut presque la laisser pour la fin, mais rebondissons, philosophons. Est-ce que, Anne, tu verrais une différence entre les deux ?
Oui, bien sûr. On a du mal à concevoir que la grâce soit fondée en raison, déjà, peut-être.
Ah, d'accord.
D'ailleurs, je voyais un peu comme une antinomie de dire qu'on allait fonder en raison des principes sur la nature d'un côté et la grâce de l'autre. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du même ressort. Et c'est une des principales questions du reste que je me posais à propos de Leibniz, ce mélange de la raison, du rationnel, et ce mélange de la grâce qui est de spirituel, qui vient de Dieu.
Oui.
Donc, c'est une première question que je me posais et je pense que au point de vue philosophique, c'est quelque chose qui est très lourd de sens, je pense.
C'est ça. Ouais. Alors là, on est en plein, effectivement, dans la philosophie européenne, avec cette opposition tranchée entre la nature et la grâce. Donc, Leibniz est chrétien, il est allemand, je pense qu'il est luthérien. Donc
il était luthérien. Luthérien ou protestant,
évangélique, oui. Ouais. Donc, justement, est-ce que, on va retourner ça, ta question dans une autre question, est-ce qu'il n'y a pas chez Leibniz la volonté de donner une assise rationnelle, y compris à ce qui dépasse la nature.
Oui, enfin, le titre en tout cas suggère ça. Puisque... Oui.
Alors évidemment, ça nous choque. Il y a quelque chose qui choque l'entendement. On pourrait imaginer le monde comme n'étant fait que de choses, disons, matérielles, mécaniques, etc. Mais est-il possible de penser que même ce qui dépasse l'ordre de la nature, si on veut opposer ordre de la grâce et ordre de la nature, soit lui-même fondé en raison?
Oui, d'ailleurs, ta question exacte, c'était quoi? Une assise matérielle à ce qui ne l'est pas, ce qui dépasse. Et on pouvait aussi se poser
la question...
Rationnelle à ce qui ne l'est pas, qui vient de la grâce. On pouvait aussi se demander, est-ce que la grâce pouvait aussi intervenir dans ce qui était matériel? On pouvait aussi retourner. Parce qu'en fait, il me semble que là, il y a beaucoup, dans sa définition même de monade, il y a quelque chose qui est de l'esprit et du corps. Peut-être que... par exemple, Descartes, me semble-t-il, disait qu'il y avait des substances qui avaient de l'étendue.
Oui.
Et que donc il y avait d'une part ce qui était plutôt de l'esprit, et donc il divisait l'esprit et le corps. Il disait qu'il y avait ce qui était de l'esprit qui n'avait pas d'étendue, et ce qui était plutôt, et puis la matière et tout ça, qui avait de l'étendue. Et c'est peut-être pas la matière de reste, hein. Mais Leibniz nous dit quelque chose, il nous dit que là, cette monade n'a pas d'étendue. Donc c'est de la substance et elle n'a pas d'étendue. Donc ça commence à être très... C'est là où on commence à avoir aussi certaines difficultés. Et il me semble aussi qu'il se met peut-être un petit peu, en marche par rapport à Descartes.
Alors, complètement. Oui, moi je suis complètement d'accord. Nous sommes en dialogue avec Descartes. On est en dialogue avec Descartes, et on est en dialogue parce que c'est quoi? Peut-être, Sylvain, tu peux relire le premier paragraphe, simplement? La première moitié, juste, ou la première phrase, c'est ce que je veux dire.
La substance est un être capable d'action. Elle est simple ou composée. La substance simple est celle qui n'a point de partie. La composée est l'assemblage des substances simples ou des monades. Après, il explique la définition
de
la...
Donc,
effectivement, je pense, comme tu dis, il y a une dualité entre la vision de Descartes et la vision de Leibniz. Parce que Leibniz, en fait, il faut aussi voir un petit peu son travail en mathématiques, en fait. Leibniz a beaucoup travaillé sur le calcul infinitésimal. Et quelque part, on retrouve dans cette définition-là, où en fait, il parle d'un ensemble de substances qui n'ont peut-être pas de dimension, en fait, enfin d'étendue. Et quelque part, on retrouve un peu le concept mathématique.
Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas mathématiciens, on peut expliquer en quoi consiste le calcul infinitésimal. On peut peut-être dire qu'on en avait parlé au neveu de René lorsque nous avions évoqué Pascal. Donc, tu peux dire ce que c'est pour toi le calcul infinitésimal?
Ben, en fait, c'est le calcul qui se base sur l'infiniment petit, d'une
certaine façon. Infiniment petit, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on veut calculer, par exemple, une surface,
des longueurs,
des volumes, et ainsi de suite, et qu'on n'a pas une équation directe comme
en fait, c'est ce qui permet d'établir des équations plus globales.
Voilà. Et donc, on découpe une surface, un volume ou n'importe quoi, ou une action, parce que ça peut être dans le temps aussi, en petits bouts, infiniment petits. Voilà. Donc, effectivement...
Mais les gens connaissent aussi un petit peu ça avec les intégrales, non?
Voilà. L'intégrale, c'est exactement. Quand on parle de dérivée d'intégrale, c'est le calcul infinitésimal, tout à fait. Alors, et juste une petite parenthèse historique, il ne faut pas oublier que c'est parce que Pascal s'est intéressé au problème de la roulette, de la cycloïde, il a donné quasiment tous les éléments de base pour faire ce calcul infinitésimal, et Leibniz l'a développé à partir de ce qu'il a lu de Pascal. Et il y a justement un des textes qu'on a retrouvé, une lettre qui dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Pascal? Il avait quoi devant les yeux? Il n'a pas vu l'ampleur de sa découverte.
Il n'a pas généralisé,
Il n'a pas généralisé, il est resté scotché à son petit problème. Voilà, l'autre grand inventeur du calcul infinitésimal, on le rappelle, c'est Newton. Il y a évidemment une bataille de paternité.
Tout ça pour dire qu'on retrouve un peu le pendant presque philosophique cet aspect mathématique. En fait.
Mais je veux attirer l'attention des auditeurs sur le fait que Anne a regardé vraiment du bon côté, parce à chaque fois qu'on lit substance, on peut lire beaucoup de choses, hein, on va voir. Mais en premier lieu, pour commencer, on peut lire dialogue avec Descartes. Puisque l'ontologie, alors on va utiliser un gros mot de philosophie, le mot ontologie. Ontologie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réflexion sur ce qui est. D'accord ? Donc, l'ontologie cartésienne nous dit en effet de quoi est fait le monde autour de moi. Et Descartes dit de deux types de substances. Res extensa, la substance étendue, et res cogitans, la substance pensante. D'accord ? Et en fait, il ne faut pas trop se crisper sur ça, parce que beaucoup de gens utilisent ça pour démolir Descartes ou le descendre en disant « il a séparé l'âme, le corps et l'âme, etc. » Moi, j'ai l'habitude de dire, si on ne veut pas se crisper sur cette dualité, c'est deux manières de connaître les choses, le monde. C'est-à-dire, je peux prendre, ce stylo, et je vais regarder comment il se comporte, combien il pèse, est-ce qu'il résiste à... C'est en tant que substance étendue que je fais ça. D'accord ? Maintenant, si je veux me connaître moi-même, effectivement, je peux me connaître combien je pèse, comment le truc, mais ça ne va pas me faire connaître moi-même. Je me connais qu'en tant que substance pensante, et ce n'est pas la matérialité de mon être qui me permet de me connaître, du moins pas directement. Voilà. Donc, c'est juste pour décrisper cette dualité. Mais à chaque fois qu'on va entendre substance, déjà, c'est bien d'entendre Descartes et un dialogue avec cette dualité qui a été introduite par Descartes. Voilà.
Oui, parce qu'en plus, à l'époque, c'est pareil, il y a beaucoup de travaux qui se font justement en physique et où il y a des choses qu'on a du mal à expliquer, notamment des forces à distance, des choses comme ça.
Oui.
Donc le problème de l'étendue est un vrai problème difficile.
Exactement. C'est-à-dire qu'un corps comme la Terre agisse à distance sur un corps comme la Lune sans qu'il y ait de matière intermédiaire, on trouve ça très mystérieux, quoi.
Bah, du coup, l'amniste met quelque chose entre. D'une certaine façon. Dans ce qu'il explique. Juste. Alors, on va voir.
Il faut creuser. Anne, on creuse. Oui.
Alors, j'avais encore des questions par rapport à cette unité.
Oui.
Comment le comprendre ? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un petit peu de rappel d'Aristote ?
Certainement.
Hein, et surtout avec son être. Et il faut peut-être citer cette phrase de Leibniz qui peut paraître bizarre à premier abord. Ce qui n'est pas véritablement un être n'est pas véritablement non plus un être.
Voilà.
Voilà. Donc c'est.
En fait, donc... c'est une phrase qui dit la même chose, mais elle change uniquement selon l'accent.
Oui, bien
sûr. Tu peux la répéter juste.
Ce qui n'est pas véritablement un être ne peut être non plus véritablement un être.
Voilà.
Voilà.
En fait, cette phrase, elle résume à merveille. Elle résume à merveille ce qui est dit, c'est-à-dire. Ce qui est doté d'être, hein, encore une fois, donc la philosophie, c'est quoi la philosophie ? La philosophie, c'est un questionnement sur l'être, un questionnement sur l'être et la vérité. Donc, ce qui est doté d'un être, effectivement, donc, à qui on peut attribuer quelque chose qui dure, qui va rester par le temps, qui modifie le monde tout en restant lui-même, eh bien, c'est uniquement les choses qui sont une.
Oui, d'ailleurs.
Continue. Et on peut penser, on revient primo sur le domaine, par exemple, de la chimie, par exemple. Faut pas oublier que le XVIIIe siècle où écrit ce thème, on commence justement à montrer que les substances, en tant que maintenant ces substances matérielles, sont décomposables et recomposables. D'accord. Déjà Descartes lui-même, il disait, je prends le morceau de cire dans ses méditations métaphysiques. Et il dit, ce morceau de cire, il est dur, là je le touche, il rend un son, il a une forme déterminée. Maintenant, je le fais chauffer. Bah, il peut prendre toutes les formes que je veux. Il a perdu son odeur, il a perdu sa... Il a changé. Et maintenant, je le refroidis, il a retrouvé sa forme initiale. Donc,
mais c'est toujours le même.
C'est toujours le même, il y a quelque chose qui s'est perpétué. C'est ça la substance, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il a gardé son unité. D'accord ? Et pareil en chimie. En chimie, on voit que je peux transformer tel et tel produit en faisant réagir. Mais derrière tout ça, quelque chose reste, une unité reste.
Alors par contre, juste, je pense que c'est important de faire une distinction, hein, justement, le fait que les monades ne sont pas des atomes. Hein,
voilà.
Faut faire attention
oui,
à
oui,
ça.
Voilà. Oui. Alors pourquoi ce sont, pas faire alors, ce sont là, des fait. Atomes métaphysiques.
Voilà, voilà. c'est, voilà c'est, oui, quand on a dit ça,
on
avoue qu'on est un petit peu,
on est un peu
perplexe quand même, mais, hein, mais, de parler d'atomes métaphysiques.
Mais non, mais on n'est pas perplexe, on n'est pas perplexe.
Cependant, c'est ça.
Parce que regardez, on n'est pas perplexe, c'est très simple. La façon dont je me conçois comme une unité, d'accord. Jamais je me conçois comme plein de membres en interaction ou comme plein de neurones en train de...
Ah, je sais pas, moi, on est plusieurs à parler dans ma tête.
Oui, d'accord.
Non, je rigole. Bon,
j'ai une très très bonne adresse.
Bon, voilà. Effectivement, voilà. Il y a vraiment une unité de la personne.
Tout à fait, une unité, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre. Je suis un parce que je me vis en tant que... Voilà. D'autres remarques par rapport à ce...
Non, je pense non. aussi éventuellement à l'eau pour la substance qui pouvait être...
qui peut être décomposée, voilà. C'est-à-dire, qui c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, atomos, ça signifie non sécable. Hein.
Ouais. Oui, mais
donc,
justement, oui. C'est ça qui est intéressant, c'est oui. que les Grecs ont fait la distinction entre monas et atomos. Mm-hmm. Parce que atome, je pense que c'est vraiment plus sur un aspect physique, en fait, un aspect matériel
oui,
hein,
oui.
des choses.
Alors, je voudrais aussi qu'on passe quand même 2 minutes à regarder ce mot principe. Pour nos auditeurs, on peut leur dire qu'à chaque fois que nous voyons principe, on est dans la philosophie, quoi. Mm-hmm. Parce que philosopher, c'est rechercher les principes des choses. Donc, principe, comment vous l'entendez, vous ?
Alors, c'est ce qui est premier, ce
oui.
qui
c'est un mot latin,
gouverne,
oui,
ce qui
oui,
commande.
Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est un mot latin, effectivement, princeps, mais c'est un mot politique, puisque princeps, c'est le prince. C'est le sénateur chez les Romains, celui qui marche en tête du cortège. Principium, hein, je pense que c'est ça. Mais ça traduit quel mot grec ? Vous vous en souvenez ? On en avait déjà discuté.
Arché
qu'on entend dans archéologie.
Archevêque,
archétype, tout ça.
Hiérarchie,
très bien. Donc, arché-là, c'est à la fois ce qui est premier dans le sens archéologie, c'est ce qui est premier dans un sens temporel, mais aussi dans le sens de ceux qui commandent.
Oui.
Voilà. Donc,
ce qui sous-tend, en fait.
Ce qui sous-tend. Aussi, ouais. Alors, ce qui est intéressant, tu dis ce qui est sous-tend. Sous-temps, c'est exactement substance. Mmh. Tu vois, c'est intéressant de voir ça. D'accord.
Alors, c'est les oui. lois de la nature, quelque oui. part. Est-ce qu'on peut continuer à dévier ?
Oui, oui.
Est-ce que s'il va connaître les lois de la nature, cela veut dire que la nature est intelligible ? Est-ce que là, on retrouve un petit peu peut-être ce qu'on a trouvé avec Galilée ?
Mais bien sûr,
oui.
mais bien sûr. Elle est, on peut dire que... J'ai envie d'aller tout de suite à la fin, mais c'est comme ça la philosophie, on ne peut pas avoir un chemin. Mais c'est exactement ça. Quand tu dis la nature est intelligible, quel est le principe qui est sous-jacent ? Quel est le principe ? Et c'est à Leibniz qu'on doit d'avoir exhumé ce principe.
Un sens, une sémantique, une cause finale ou quelque chose comme ça.
Non, mais ça, c'est très précis. C'est le principe de... C'est écrit ça, dans notre titre. Le principe de... Bah oui, bah oui, le principe de raison. Le principe de raison. C'est-à-dire, le principe de raison se dit nihil est sine ratione, donc rien n'est sans raison, ou rien n'est sans une raison suffisante.
C'est ça,
donc
ah
c'est
oui.
ça. La
c'est
nature, elle est intelligible, parce que si quelque chose est dans la nature...
Il y a une raison.
Il y a une raison. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y ait une raison... qui fondent l'être des choses. Voilà, ça, c'est un
ah, c'est très important
oui.
chez Leibniz, parce
pourquoi
que c'est ce qui va sous-tendre
voilà.
toute sa pensée aussi.
Exactement, c'est-à-dire rien n'est sans raison.
Plutôt que rien.
Oui, c'est ça.
Il s'est posé la question aussi, c'est une de ses grandes phrases célèbres, ça, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
C'est ça, exactement. Et donc, s'il y a quelque chose... Oui, il y a un pourquoi.
Pourquoi ça, c'est important ?
Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que principe de raison, il ne faut pas l'entendre comme principe de causalité. Ça peut être, alors, dans le principe de raison, il y a le principe de causalité, c'est-à-dire, si je suis ici assis à cette chaise au domaine de l'année avec le soleil, c'est qu'il y a une cause, et à la cause, que pourquoi il y a des causes, et ainsi de suite, jusqu'à une cause première. Donc ça, c'est un principe de causalité. Mais on va à un moment arriver, en remontant de cause en cause, à une cause qu'on ne pourra plus dire. Et effectivement, comme le dit Anne, on arrive à la question des questions, qui est pourquoi
la création du monde.
Bah oui, pourquoi, monde, ouais. Pourquoi y a-t-il de l'étant, si on veut parler le vocabulaire philosophique, plutôt que le rien, le néant? Et là, on ne peut plus répondre par la causalité, il faut répondre autrement. Et c'est pour ça que principe de raison, c'est il y a peut-être une raison au fait qu'on soit là, ou qu'il y ait quelque chose, mais il ne faut pas entendre raison par causalité. Donc ça, c'est... Voilà. Je suis très content parce que là, en quelques minutes, on a arrivé au cœur de la pensée de Leibniz. Évidemment, il va falloir la déployer petit à petit. On lit le deuxième paragraphe où on... Bon, y a juste une petite chose aussi. Hein. Et par conséquent, toute la nature est pleine de vie. Ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire, Leibniz voit la vie partout. Pas seulement dans ce que nous appelons le vivant, mais finalement...
Il étend un peu les choses.
Voilà, tout est absolument tout.
Est-ce qu'il n'est pas assez moderne dans ce sens-là, avoir la nature pleine de vie? Il disait aussi, je pense que rien n'est semblable, tout est différent, chaque fleur est différente.
Et pourquoi rien n'est semblable? Est-ce que vous comprenez pourquoi rien n'est semblable? Est-ce que vous le comprenez? Pourquoi deux choses ne peuvent pas être identiques chez Leibniz?
Ça pourrait être l'unicité de la monade,
c'est-à-dire que c'est exactement, encore une fois, ce principe de raison. C'est-à-dire, si Dieu crée le monde, si le principe créateur du monde crée le monde, il n'y a pas de raison pour qu'il le fasse deux fois, quoi.
Oui. Alors oui et non, parce qu'il pourrait très bien y avoir effectivement, pourquoi pas, deux choses, deux monades identiques.
Ben non.
Ouais,
non.
Mais pourquoi, non, une monade ne peut
pas
être identique.
Parce que justement, du fait du principe de raison, il ne peut pas, parce que sinon, il n'y a pas de raison de créer deux fois la même chose. C'est un principe de raison, justement. Mmh. Oui, je te vois dubitatif.
Oui, un peu. Enfin, oui. Ça ne remet pas en cause le principe de causalité ou de raison, en fait. C'est mal à voir, parce que le fait qu'il y ait deux monades identiques pourrait poser problème.
Parce qu'il n'y aurait pas moyen de les distinguer. On aurait créé deux fois une chose indistinguable. Mmh. Donc, c'est sans raison. Pourquoi je vais créer deux fois quelque chose qui est identique? Tu vois, c'est...
Ouais.
Identique, ça veut dire avoir la même position, la même.
Tu parles d'une identité forte.
Identité forte.
J'étais plus sur une.
Il disait que la position faisait partie aussi de la monade.
C'est ça.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui est, on va le voir. On va le voir dans les prochains.
Je pense qu'il faut effectivement avancer.
Voilà, on va avancer. Alors, deuxième paragraphe.
Les monades, n'ayant point de parti, ne sauraient être formées dites défaites. Elles ne peuvent commencer ni finir naturellement. Et dure par conséquent autant que l'univers, qui sera changé, mais qui ne sera point détruit. Elles ne sauraient avoir des figures, autrement elles auraient des parties, et par conséquent, une monade en elle-même, et dans le moment, ne saurait être discernée d'une autre que par les qualités et actions internes, lesquelles ne peuvent être autre chose que ses perceptions, c'est-à-dire les représentations du composé ou de ce qui est dehors, dans le simple. Et ses appétitions, c'est-à-dire ces tendances d'une perception à l'autre, qui sont les principes du changement. Car la simplicité de la substance n'empêche point la multiplicité des modifications qui se doivent trouver ensemble dans cette même substance simple. Et elles doivent consister dans la variété des rapports aux choses qui sont au dehors. C'est comme dans un centre ou point, tout simple qu'il est, se trouve une infinité d'angles formés par les lignes qui y concourent.
Voilà. On retrouve la métaphore mathématique, ouais, hein, c'est ça.
La géométrie.
Oui. De la géométrie. Alors, on dit que les monades, c'est difficile,
donc,
mais...
Tu vois, là, c'est pour ça que je parlais du fait que les monades puissent être, entre guillemets, identiques, dans le sens où là, il dit bien qu'elles ne sont pas distinguables, justement.
Alors,
si ce n'est par, entre guillemets, ce qu'il appellerait une sorte d'état interne.
Oui.
Mais bon, après, c'est peut-être une subtilité d'identité.
Justement. Je pense que quand tu penses monade identique, à mon avis, ce que j'imagine, c'est un peu comme, tu dirais, on a des éléments, des points élémentaires, comme des dominos, et on les assemble comme un jeu de Lego, et je peux faire la même construction de Lego à gauche et à droite, donc les monades sont identiques. Mais attention. Ça ? Non, c'est pas ça.
Non, mais...
Bon, mais en tout cas, il ne faut pas imaginer quelque chose de cet ordre.
Non.
Voilà.
Non,
donc,
je suis d'accord.
Donc, ce qui est difficile dans cette pensée, c'est vraiment l'histoire du simple. C'est-à-dire, nous, on imagine toujours un être vivant comme quelque chose de composé. Or, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette partie de l'être vivant qui est indécomposable, qui forme une unité. C'est voilà. Et chaque être humain est unique, au fond.
D'une certaine façon, il met la complexité de la vie, presque, ou enfin de l'étang peut-être, à l'intérieur des monades.
Exactement.
D'une certaine façon, il fait ça, il renverse un peu les choses.
Ah oui, oui, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit, je trouve. Effectivement, vous avez vu, elles ne peuvent commencer ni finir naturellement et durent par conséquent autant que l'univers qui sera changé mais ne sera point détruit. Elle ne saurait avoir de figure, etc. Et donc, en effet, elles sont simples et elles ont quand même des modifications. C'est ça qui est un peu paradoxal.
Interne. Ouais,
et donc, ce qui va changer, c'est la façon dont l'univers se reflète en elles. Donc, effectivement, vous voyez, c'est très métaphysique, oui.
Oui.
Peut-être qu'on peut souligner le fait que les figures ici, je pense que c'est vraiment au sens géométrique. Hein. Donc, c'est l'histoire justement de ce dont parlait Anne tout à l'heure, l'étendue en fait.
Oui.
Elles ne sont pas d'étendue.
Mais alors, ça veut dire que si je suis une monade, l'ensemble de l'univers se reflète en moi.
Par contre, c'est ça, c'est un reflet de l'univers.
Oui. Évidemment, je n'ai pas connaissance, ce n'est pas un reflet distinct des choses. Mais ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, là, actuellement, en Australie, a une influence sur moi. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on reprend la discussion juste après. Voilà.
C'est la fin. Là.
C'est la fin, sans doute, oui. Ah, bah oui.
Ah oui, ah, j'ai pas vu.
Ah ouais, on est déjà depuis un moment.
Oui.
J'avais pas lancé le chrono. Ouais.
Par contre, il faudrait que tu annonces juste la fin. Il faudrait juste dire que c'est la fin de l'émission. Qu'on fera la suite.
Donc, j'ai dit que tout le monde se reflétait en lui, hein, c'est ça. Il nous reste combien de temps? Zéro.
Bah là,
même pas une phrase de conclusion. Une. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de ces deux premiers paragraphes des principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Il ne s'agissait évidemment que d'une introduction. Tout à l'heure, Anne disait j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Donc nous continuerons le dialogue avec Leibniz et nous invitons nos auditeurs à se procurer ce texte qu'on peut trouver en ligne ou dans toutes les librairies. Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Merci à Antoine, merci Sylvain, merci Anne et rendez-vous dans deux semaines pour la suite des Neveux de René.